En Suisse, 3/4 de la population vit en ville. Au niveau mondial, c'est près de 56%. Et ce qu'il manque souvent dans les villes, ce sont des arbres. Pourtant, c'est important d'avoir des arbres. D'abord, parce que c'est joli. Mais est-ce vraiment cela? Notre santé serait-elle liée à celle du règne végétal? Et est-ce que je peux me soigner grâce aux arbres?
Dit comme ça, c'est un peu simple. Utiliser notre relation à l'environnement naturel pour être en meilleure santé, oui. Alors, les espaces verts, ils ont de multiples bénéfices. Ils permettent notamment d'avoir des oasis ou des espaces où les gens peuvent simplement moins souffrir d'un climat capricieux.
Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences et au pied de mon arbre, dans la nature. La science s'intéresse de plus en plus à ses bienfaits. Nicolas Sen est médecin-chef du département de médecine de famille et professeur à l'Université de Lausanne, auteur de l'ouvrage collectif « Santé et environnement » paru aux éditions RMS. La nature aurait donc un impact positif sur nous.
D'un point de vue scientifique, on est vraiment plutôt au début d'une compréhension, même si on a eu beaucoup d'études. C'est souvent des études sur des petits collectifs ou bien des études très très macroscopiques qui regardaient par exemple le niveau de végétation dans une région et le niveau de santé des personnes là, mais c'est très agrégé, c'est des corrélations. Donc là, on doit vraiment construire un savoir qui est plus important pour comprendre les mécanismes derrière.
Bon, ben, les indices sont là, les arbres nous font du bien.
Alors ça a clairement un impact sur la santé mentale, même si ça peut avoir des aspects assez subjectifs. Il y a quand même beaucoup d'études qui montrent un impact clairement positif sur la santé d'être entouré de verre ou de verdure, voire d'une biodiversité plus importante.
C'est donc chouette d'avoir un contact avec la nature. Pourtant, certains d'entre nous ont toujours une forme de méfiance par rapport aux environnements naturels. Soit par hygiénisme à outrance, berk, c'est dégoûtant, soit par peur des bestioles, soit parce qu'on n'a plus l'habitude, plus le temps ou autre chose à faire. Mais ce contact avec la nature est fondamental pour notre santé. Et c'est pour cela que la science s'y intéresse. Et que par ricochet, Microsciences s'y intéresse. Notamment pour comprendre comment on décortique les bienfaits de ces parenthèses de nature. Cela dit, c'est quand même très vague ce terme de nature.
Et c'est le problème qu'on a avec la définition de la nature. Quand on regarde la littérature, il y a des définitions qui sont très différentes. Pour certains, c'est une nature inviolée où il n'y a quasiment jamais eu d'activité humaine, mais ces endroits-là existent quasiment plus sur Terre. Pour d'autres, c'est plus largement des espaces où il y a de la végétation, où il y a des animaux, où il y a des insectes, etc. Donc c'est un concept qui est extrêmement variable d'un contexte à l'autre. Ce qui n'est pas forcément un problème, il faut simplement le définir, il faut savoir de quoi on parle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études maintenant qui commencent à regarder plutôt les questions de biodiversité, parce qu'on peut vraiment le caractériser.
Oui, mais la biodiversité, ce n'est pas non plus un truc facile à saisir.
Au fond, c'est relativement simple, c'est qu'on compte le nombre d'espèces différentes et la variation qu'il y a dans différentes espèces, comment elles sont variables ou similaires. Donc c'est une question de densité et de variété. Ça, c'est vraiment la façon dont on mesure la biodiversité. Maintenant, quand on parle de perte de biodiversité, je pense que ça nous ramène à cette notion de service écosystémique. Et par corollaire, donc, quand il y a une diminution de la biodiversité, on a une perte de ces services écosystémiques.
Et comme l'arbre qui cache la forêt, un terme scientifique en appelle un autre. Service écosystémique.
Donc les services écosystémiques, c'est toute une série de services que rend la nature ou justement les écosystèmes aux sociétés humaines. Là, on parle beaucoup de santé, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, si on parle de la construction par exemple, donc ça fournit du bois pour la construction, ça fournit des espaces de jeu pour les personnes, c'est aussi un service à l'économie humaine au sens vraiment très très large. Donc c'est ce qu'on met sous ce grand chapeau de services écosystémiques. Donc c'est beaucoup plus large que juste la santé. C'est vraiment tout ce que les écosystèmes permettent de réaliser aux sociétés humaines, si on veut, de services rendus à la société humaine.
La nature, les écosystèmes, les arbres nous apportent donc un bien-être à bien des égards. Donc pour le coup, les espaces verts en ville sont fondamentaux.
Il y a une tamisation du bruit, enfin, il y a des multiples bénéfices aussi par rapport à simplement des espaces de bien-être où on peut se reposer. Se reposer, c'est quand même un élément important pour la santé. Après, il y a simplement le fait d'être dans un espace de calme et d'interaction sociale.
Aller dans un parc ou dans une forêt, ça détend et de plus en plus de professionnels de la santé nous recommandent de nous y adonner. Alors ça peut-être vous paraître une lapalissade. Mais ne serait-ce pas une façon détournée de nous pousser à faire une activité physique? Finalement, je pourrais la faire aussi en faisant du lèche-vitrine et en m'arrêtant pour boire un verre avec des copines sur une terrasse.
Alors, c'est pas détourné. Il y a clairement un intérêt à être actif dans un environnement naturel. Si on compare les bénéfices globaux pour la santé du lèche-vitrine et la balade en forêt, peut-être qu'on n'a pas les mêmes bénéfices. En tout cas, on ne peut pas mesurer les mêmes bénéfices. On n'est pas dans le même type de sollicitation non plus. Quand on est en forêt ou dans un espace vert, l'attention qui est requise est complètement différente parce qu'il n'y a pas de volonté marchande, par exemple. Donc, on est plutôt dans une attention qu'on doit rechercher, des choses qu'on doit rechercher aussi nous-mêmes quand on est en forêt. La nature, elle ne va pas se présenter à vous sous un mode marketing. C'est vous qui allez y trouver ce que vous cherchez.
Solliciter mon cerveau différemment, ça me plaît. Et je veux bien renoncer à mes copines ou leur donner rendez-vous dans la nature. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va faire à mon corps? Et puis, il ne faut pas forcément une forêt.
Alors, les études se sont beaucoup faites sur le vert. Maintenant, on a quand même des éléments qui montrent plutôt qu'il faut une biodiversité riche. Après, c'est probablement une exposition routinière qui compte, quotidienne. Le fait d'aller une fois par mois ou tous les deux mois se promener une demi-heure en forêt va probablement pas faire une grande différence. Et c'est pour ça qu'on tente maintenant de rapprocher beaucoup la végétation et les milieux naturels de l'endroit où les gens vivent, c'est-à-dire dans les villes souvent, pour qu'ils y soient exposés de façon régulière.
Mais cette végétation, ce vert, cette biodiversité, que dégage-t-elle pour avoir un effet physiologique sur mon corps ?
En fait, on a une interaction permanente, je dirais, entre le dedans, qui est notre corps, et le dehors, qui est l'environnement naturel. Et en fonction de ce dehors, on va avoir aussi des modifications à l'intérieur de notre corps. Un bon exemple de ça, c'est des études sur le microbiome. Notre flore interne, donc le microbiome est composé de multiples bactéries différentes et qui fait toute notre flore, que ce soit digestive, cutanée, pulmonaire. Et tout ça, on sait qu'il est relié au type de microbes ou bien de flore qu'on va trouver à l'extérieur. Si on simplifie un petit peu les choses, une grande biodiversité externe va se corréler avec une grande biodiversité interne du microbiome.
Donc le vert, c'est bien. Et le bleu?
Effectivement, le bleu, donc, c'est l'eau, c'est les cours d'eau, c'est les plans d'eau. On sait qu'ils sont importants, alors ils vont aussi avoir un rôle tampon au niveau de la température, par exemple. Mais on sait que ça a aussi un effet calmant. Souvent, on les met ensemble, on parle de blue space ou de green space, pour parler d'espace vert ou d'espace bleu. Il y a des gens qui vont même plus loin de parler simplement de l'aspect visuel du paysage, et qui inclut aussi les aspects minéraux, donc qui peuvent aussi jouer un rôle dans la santé.
Le bleu, le vert, la nature, la biodiversité, tout ça, c'est bon pour le corps et bon pour la tête. Mais franchement, si on souffre d'allergie, c'est pas non plus super agréable.
Alors, on a maintenant des études, effectivement, qui ont essayé de voir un petit peu plus physiopathologiquement ce qui se passe au niveau immunitaire quand on a justement certains types d'exposition en fait à la biodiversité, notamment avec des allergies. Il y a des études qui montrent qu'on a des cascades immunitaires qui génèrent de l'inflammation chez des personnes qui sont plutôt pauvrement exposées à la biodiversité, notamment en Finlande, qui ont étudié l'allergie au bouleau sur deux populations qui étaient de part et d'autre de la frontière, la Carélie, cette région frontalière entre la Russie et la Finlande. Et avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une même population, c'était une même région, et à la Deuxième Guerre mondiale, cette région a été partagée en deux. Et il y a un groupe de population qui est resté dans une région plutôt rurale avec beaucoup de biodiversité du côté russe et du côté finlandais. Ça s'est beaucoup plus urbanisé. Et on voit une nette augmentation des allergies du côté urbanisé qu'on peut attribuer en tout cas en partie à une diminution de la biodiversité. Et dans les mêmes études, on a pu observer aussi quelles étaient les modifications au niveau de l'immunité et des cascades inflammatoires, de certains marqueurs en fait de l'inflammation. Donc on commence un peu à explorer, à comprendre ces mécanismes-là.
Oui, ce qui veut dire que certaines personnes qui n'ont plus été exposées à la nature vont devoir souffrir un moment des yeux et du nez avant de tirer les bénéfices pour leur santé mentale et physique.
Le fait d'être réexposé, si on veut, à l'espace naturel ou aux espaces verts, là, c'est plus difficile de faire la part des choses de ce que ça va apporter comme bénéfice ou pas. Mais globalement, il y a un bénéfice global de votre santé, il y a plutôt un bénéfice à être réexposé à la nature. On doit balancer les différents risques. C'est un peu comme pour l'activité physique. Dans l'activité physique, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des effets négatifs, mais globalement, c'est positif d'avoir une activité physique.
Plus d'avantages que de désavantages pour la santé, je prends. Mais ce n'est pas forcément possible d'avoir une vue sur la forêt ou sur un parc dans chaque appartement en ville. C'est compliqué d'imaginer une agglomération où chaque horizon est non bâti.
Il faut un horizon non bâti ou bâti intelligemment, parce qu'on peut bâtir aussi intelligemment en ayant un certain respect de l'environnement naturel ou intégrer des éléments naturels. On trouve ça dans des architectures de type organique, des constructions qui sont en bois par exemple. Donc ça, on peut retrouver. Vraiment, l'intérêt principal, c'est de conserver un lien régulier avec un environnement naturel et pas d'y aller de façon très ponctuelle. Une étude récente qui est sortie parle des jardins communautaires. Et c'est une étude qui a été menée sur plus d'une année dans des populations aux États-Unis et qui montre qu'en fait, le fait d'aller régulièrement dans un jardin où on cultivait des plantes, notamment pour manger, donc c'était des vrais jardins communautaires, a globalement un effet mesurable et bénéfique sur la santé en termes de tension artérielle, de maladies chroniques, mais aussi de contacts sociaux et de santé mentale, ce qu'on disait avant, et d'efforts. Et c'est la façon détournée de vous faire faire de l'activité physique, justement.
Beaucoup d'études. Mais que fait la palisse? Nous n'avons là que des faisceaux d'indices. Même si intuitivement j'entends cet appel à la nature, j'ai toujours de la peine à saisir les mécanismes qui induisent ce bien-être. La recherche s'attelle à les comprendre. Mais pour l'instant, les études se basent sur des populations exposées à la nature. En science, on a besoin de populations témoins. On va quand même pas lancer des études avec des populations témoins qui seraient contraintes de vivre dans des caves en béton et celles qui auraient accès à la nature. Ce serait pas raisonnable, à mon humble avis.
Si, non. On va évidemment pas faire des expériences comme ça. On a d'autres moyens de faire ça. On peut faire des études où on va aller de façon beaucoup plus approfondie, essayer de comprendre comment étaient les niveaux d'exposition des gens dans le temps, par exemple, avec des enquêtes. On peut développer des outils de mesure, de mesurer le niveau de végétation, par exemple, dans lequel les gens vivent. On a des cartes qui nous montrent la biodiversité à différents endroits. Là, on a des outils qui sont développés maintenant qui nous permettront d'être beaucoup plus fins dans cette analyse.
Donc, on regarde le passé des gens et les dégâts qu'une sous-exposition à la nature a pu engendrer sur leur santé.
On va s'intéresser à où les gens ont vécu dans le passé, par exemple, et où ils vont maintenant. On peut aussi faire ça de façon prospective, en suivant les gens dans le temps, puis en regardant simplement quels sont les parcours de vie des gens et quelle est la nature qui les entoure à ce moment-là ou pas.
Ce qui m'intrigue quand même, c'est que depuis le début de l'humanité, nous avons toujours cherché à ériger des barrières entre nous et la nature. Et il faut bien l'admettre, la nature est quand même un peu hostile. Les marais sont pleins de moustiques et de bestioles qui rêvent de nous pomper le sang. Et puis les forêts sont remplies de chauves-souris qui nous guettent pour nous transmettre des virus et des pathogènes. Et puis il y a les loups.
Je pense que c'est pas vrai pour toutes les sociétés humaines. Je pense qu'il y a des sociétés qui ont vécu et qui ont vécu jusqu'à récemment avec une façon de voir la nature de façon très différente. Donc en étant plus respectueuse quelque part de l'environnement naturel, avec des imaginaires, avec des représentations de ce qu'est cette nature par rapport à eux, très très différentes que ce qu'on peut avoir dans nos sociétés occidentales. On parle souvent des populations autochtones, notamment en Amérique du Nord, qui avaient ou qui ont encore une relation très très différente à la nature. C'est le cas aussi de peuples d'Amazonie. Donc ça n'a pas toujours été le cas universel de l'humain.
Et alors pourquoi nous, en Occident, nous sommes-nous coupés de cette nature?
Ça nous amènerait très loin, il faudrait demander aux sociologues et aux philosophes, mais c'est cette fameuse dichotomie entre nature et culture, elle date d'il y a longtemps. C'est aussi une représentation que la nature est devenue une ressource pour la société humaine qu'on peut utiliser à l'infini. Les sociétés humaines occidentales se sont développées comme ça sur les derniers siècles.
Certaines sociétés regardent donc la nature, les arbres et les forêts d'un œil complètement différent. Au Japon, par exemple, le terme de Shinrin-yoku a été instauré dans les années 80. Il s'agit littéralement de bain de forêt, traduit plus ou moins en français par sylvothérapie. Faut-il se mettre à cette pratique japonaise? Après tout, on a bien aimé se mettre au sushi.
Il y a effectivement un mélange de culture et de science. Alors, je suis moins spécialiste de ces questions-là. Il faut toujours faire attention quand même dans ces transpositions culturelles, de voir dans quel contexte ça s'intègre. Prendre en tant que tel les bains de forêt, je pense qu'on ne peut pas faire comme ça des transpositions culturelles aussi simplement. Même si, encore une fois, je pense qu'on a des éléments de preuve qui montrent que quand on va en forêt, on peut mesurer des effets bénéfiques sur la santé. Mais toute la partie culturelle, elle est beaucoup plus complexe à transposer puisque c'est forcément changer d'endroit, changer de contexte.
Oui, ben de là à sombrer dans une étrange secte arboricole, il n'y a qu'un pas. Moi, je trouve quand même difficile de faire la part des choses entre les faits scientifiques et les croyances.
Les deux font partie d'un tout, probablement. Et je dis ça aussi parce qu'on le retrouve dans la littérature scientifique. On commence à voir, en fait, apparaître des modèles, je dirais, conceptuels, explicatifs du lien entre la biodiversité, la nature et la santé humaine. Et sont intégrés, en fait, à l'intérieur de ça, non seulement les éléments objectivables d'exposition, le temps que vous passez, le type d'activité que vous faites, la nature de la biodiversité, etc., mais aussi votre représentation de cette nature. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Quel est votre imaginaire par rapport à ça? Quelles sont vos croyances? Ces éléments-là vont aussi influencer votre santé. Et les deux ensemble sont importants.
Ce qui me chiffonne pourtant dans cette équation, c'est que cette promotion de la nature est souvent accompagnée de termes comme co-bénéfice.
C'est pas un très joli terme, mais la notion de co-bénéfice, elle est assez intéressante et pour moi assez intuitive. C'est-à-dire de faire des choses qui nous bénéficient à nous en tant qu'humains, mais qui bénéficient aussi à une forme de préservation de l'environnement naturel. Typiquement, d'aller dans un parc national qui est à 300 km de chez vous, va probablement pas beaucoup bénéficier à l'environnement naturel. Vous allez y aller en voiture, certainement, surtout si vous êtes au Canada. Donc tout ça va avoir plutôt un impact, même minime à votre échelle, mais mesurable, sur l'environnement naturel du fait de vos déplacements. Donc de penser ça sous cet angle-là est très important. Et peut-être pour terminer là-dessus, il y a une revue de littérature Cochrane, donc une de ces grandes revues de littérature, qui a étudié spécifiquement le fait de s'engager dans des activités de préservation de l'environnement, et l'effet que ça a sur la santé, qui est globalement positif, même si les éléments de preuve, je dirais, sont intermédiaires en termes de qualité. Mais on commence à étudier aussi le fait d'être actif pour la préservation de l'environnement, qui a aussi un bénéfice sur la santé.
Oui, alors si je peux me permettre, l'arbre, il n'en a rien à faire si je vais lui rendre visite ou pas. Au contraire, probablement, il serait plus content si je lui fichais une paire royale.
Vous avez déjà demandé aux arbres ?
Ouh, l'arbre, tu en penses quoi, toi? Hé, hey. Oh, l'arbre. L'arbre, tu en penses quoi, toi? Ouh, ouh, l'arbre, tu serais d'accord que je te rende visite? Oh, tu me réponds? Allez, l'arbre. Oh, oh, oh. Eh oh, oh. Bon.
Si vous allez dans la nature, puis que vous détruisez à moitié des arbres pour faire votre feu, puis que vous n'en faites rien, ben vous n'êtes pas dans cette perspective. Donc c'est vraiment cette notion d'interdépendance du vivant qu'on doit intégrer et qui a nécessairement une notion de préservation, dans la notion, dans le concept lui-même.
Ok, je vais prendre soin de la nature, et la nature, c'est bon pour la santé. Alors docteur, j'aimerais bien une ordonnance pour des balades en forêt ou en parc.
Ah, ça existe déjà. Au Canada, il y a tout un programme en fait, de prescription de nature, avec un certain nombre de limites, mais il y a quand même la promotion par l'État de faire de la prescription au travers des médecins, d'aller passer du temps, par exemple, dans les parcs nationaux. Ça a des limites parce que on n'est plus dans la nature de proximité. Mais c'est en train d'être adapté aussi pour justement faire qu'on puisse prescrire des promenades ou le fait d'aller dans un environnement vert. Ces choses-là sont déjà en train d'arriver.
C'est cela, oui. Et ça sera remboursé par les assurances.
Personne ne vous empêche d'écrire sur une ordonnance que vous devez aller vous promener dans la nature. Maintenant, qu'est-ce qui doit être remboursé dans cet acte?
Le temps que je passe, moi, dans la nature.
Alors, on n'y est pas encore.
Eh ben voilà.
Il faut dégager le temps. Alors, c'est du temps qu'on ne prend pas autre chose. On pourrait faire aussi un certificat qui vous empêche d'aller faire du lèche-vitrine à la place.
Il est amusant, ce garçon.
Mais on doit être dans une action qui n'est pas forcément médicale quand on va, ou du système de santé. Je pense que c'est important que les gens se réapproprient aussi leur santé dans leur environnement. Et je pense qu'on a tout à gagner à faire que tout n'intègre pas le système de santé. Ça nous intéresse de comprendre en tant que scientifique qu'est-ce qui nous lie à l'environnement naturel, mais c'est pas pour autant que ça doit devenir forcément une activité de plus du système de santé.
Alors il est temps pour l'équipe de Microsciences de se mettre au vert jusqu'au prochain épisode. Et ils sont hauts en couleur. Camille Dupont-Lahit, coproductrice, délicate comme un sabot de Vénus, robuste comme un chêne. Lui, c'est clairement un charme. Jérôme Nussbaum, réalisateur et créateur de feuillage musical. Andréa Glanville, élastique comme le frêne, est notre assistante de production. Moi, c'est Uma Camis, un être et une journaliste scientifique. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, Play RTS, Spotify ou Apple Podcast, par exemple. Et si vous souhaitez planter d'autres graines scientifiques, écrivez-nous à microscience@rts.ch, microscience en un seul mot et au pluriel. Mais avant de quitter Nicolas Sen, je lui ai quand même demandé à quand remonte sa dernière balade en forêt.
Hier. 2 heures.
Ah oui.
Mais je ne l'ai pas fait consciemment en faisant des choses bien pour ma santé, c'est juste parce que c'est agréable.
Mm-hmm. Et il n'y avait pas de loup.
Je ne l'ai pas vu. Je le regrette, j'aurais bien voulu le croiser.